Zone de Contact, une émission de Spoutnik Afrique.
Bonjour Bamako, bienvenue sur Spoutnik Afrique. Ce soir, c'est à nouveau Anthony Lefebvre et l'émission Zone de Contact pour vous accompagner. Je suis ravi de retrouver à nouveau les auditeurs et les auditrices de Maliba FM sur le 99.5 FM à Bamako. Et tout de suite, voici le programme de notre émission d'aujourd'hui. Les derniers soldats français ont quitté le Niger. L'ONU qui a reconnu la légitimité des nouvelles autorités à Niamey et le Burkina Faso qui met en service deux nouvelles centrales solaires. Un navire chargé de céréales russes pour la RCA a jeté l'ancre au port de Yaoundé. Le ministre de l'Agriculture centrafricain réagira à cet événement dans un entretien exclusif. Sergueï Lavrov a visité le Maroc et la Tunisie. Le ministre des Affaires étrangères tunisien nous a accordé un entretien exclusif et un juriste international tunisien, directeur d'un think tank, fera le bilan de ses visites au Maghreb du chef de la diplomatie russe. Quel bilan peut-on faire de l'année 2023 sur le plan militaire ? Un expert en sécurité et en défense algérien, ainsi que le vice-président de la Commission de la Défense et de la Sécurité du Mali, reviendront sur les réalisations de l'année écoulée. L'ONU reconnaît enfin les nouvelles autorités au pouvoir au Niger. La commission de vérification des pouvoirs des Nations Unies a finalement tranché en faveur de l'ambassadeur de transition du Niger. C'est la fin de 3 mois de débats et de tensions diplomatiques. En septembre dernier, l'accès à l'Assemblée générale avait été interdit à cet ambassadeur en se basant sur les directives du Conseil de sécurité qui reconnaissaient exclusivement le gouvernement déchu de Mohamed Bazoum comme légitime. Cette décision a déjà des retombées en Afrique de l'Ouest. Le président du Bénin, Patrice Talon, a déclaré vouloir rétablir rapidement les relations avec ses pays voisins, dirigés par des militaires, évoquant notamment le Niger. Cette déclaration de Patrice Talon n'est pas anodine. Le Bénin enregistre une baisse de ses revenus portuaires suite à l'arrêt du transit de marchandises vers le Niger via ses ports. Pour rappel, sur les 15 pays que compose la CDAO, 4 sont dirigés par des militaires arrivés au pouvoir récemment. L'organisation régionale s'est d'ailleurs prononcée en faveur d'un allègement des sanctions contre le Niger, sous condition. Les derniers soldats français ont quitté le territoire nigérien ce 22 décembre. Cette opération de rapatriement est conforme au calendrier de retrait établi par Paris et Niamey. Une cérémonie actant le retrait des militaires français a eu lieu à la base militaire de l'escadrille à Niamey. C'est en présence du chef d'état-major des armées nigériennes, le général Moussa Salahou Barmou, que cet événement marquant pour le pays s'est déroulé. Pour rappel, les relations entre la France et le Niger se sont tendues après la prise de pouvoir par les militaires en juillet dernier, qui ont renversé le président Mohamed Bazoum. Les nouvelles autorités ont exigé le retrait du contingent français, ainsi que le rappel de l'ambassadeur français Sylvain Ité. Le premier ministre de la transition, Apollinaire Kyelem de Tambela, a inauguré 2 centrales solaires dans l'ouest du Burkina Faso. La première est implantée dans la commune de Bobo Dioulasso et produira en moyenne 73 gigawatts-heure par an pour le réseau national. La seconde est située à Pa et possède une capacité d'un peu plus de 54 gigawatts-heure par an, ce qui permettra de raccorder 31 000 familles au réseau. Mohamed Zerwali, responsable du projet, a déclaré que le lancement de cette seconde centrale photovoltaïque va jouer un rôle essentiel dans le développement économique de la boucle du Mouhoun en assurant une sécurité d'approvisionnement en énergie verte aux industries de la région. Pour rappel, le premier ministre burkinabé de la transition n'est pas le seul membre du gouvernement à avoir assisté à la mise en service d'une centrale solaire photovoltaïque. Le 18 décembre dernier, le ministre burkinabé de la Défense, Kassoum Koulibaly, en a inauguré une située à Zano dans la région du Centre-Est. Il a indiqué que le Burkina Faso jouit d'un des meilleurs ensoleillements du continent africain. Selon lui, il faut s'appuyer sur ce potentiel pour tirer profit des avantages qu'il offre en termes de coûts par rapport aux énergies fossiles. Mesdames, Messieurs, vous écoutez Spoutnik Afrique sur les ondes de Maliba FM à Bamako. Bienvenue à celles et ceux qui nous ont rejoints sur le 99.5 FM. La République centrafricaine va recevoir sa cargaison de blé russe gratuite. Le navire affrété par Moscou a jeté l'ancre dans le port de Douala, au Cameroun. Après le déchargement et la meunerie, le blé rejoindra la RCA par voie terrestre. Pour rappel, cette livraison de blé russe gratuite fait suite à une promesse de Vladimir Poutine lors du dernier sommet Russie-Afrique. Ce mercredi 20 décembre, l'ambassadeur de la Russie au Mali Igor Gromyko a annoncé que Moscou a offert à Bamako 50 000 tonnes de blé et 20 000 tonnes d'engrais. Des navires chargés de céréales russes pour le Mali, le Zimbabwe et l'Érythrée sont actuellement en route, tandis que ceux à destination du Burkina Faso et de la Somalie sont arrivés dans les ports. Ces livraisons sont destinées à aider les pays africains à faire face à la crise alimentaire. Elle a été provoquée par la politique de sanctions américaines à l'égard de la Russie, comme l'a indiqué récemment le chef d'état-major des forces armées russes, Valery Gerasimov. Il a souligné que cette crise a aggravé les conflits armés internes sur le continent, tandis que l'Occident exerce un chantage sur les dirigeants africains. Au micro de Spoutnik Afrique, Eric Rokoskamo, ministre de l'Agriculture et du Développement Rural de la République Centrafricaine, a commenté l'arrivée des céréales russes promises par Vladimir Poutine.
Merci beaucoup, monsieur le ministre, d'être au micro de Spoutnik Afrique. La première question que notre agence a l'honneur et le plaisir de vous poser concerne les céréales russes, parce que la Russie s'est engagée à livrer gratuitement à plusieurs pays africains et ces livraisons sont déjà sur le sol africain et doivent arriver sous peu dans votre pays, en Centrafrique. Dans quelle mesure cette livraison est-elle importante pour votre pays ?
Je vous remercie pour l'opportunité que vous me donnez pour me prononcer sur la réalisation de cette promesse faite par le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, que nous remercions. Je voulais dire que cette livraison nous le conforte dans la sincérité de la coopération avec la Fédération de la Russie, qui n'a jamais fait défaut à notre pays, la République centrafricaine. Cela va nous permettre d'améliorer le support que l'État centrafricain ne cesse de mener en faveur des plus démunis, ainsi que les réfugiés qui commencent à croître dans le nord, venant du Soudan, face à la suite de cette crise, et puis du Tchad aussi, du sud du Tchad.
Et alors, comment estimez-vous le résultat de cet engagement qui a été pris par le président russe lors du dernier sommet Russie-Afrique? Est-ce que vous croyez que c'est un résultat positif?
Oui, la Fédération de la Russie a toujours tenu ses engagements en faveur de la République centrafricaine et puis de pays africains du manière générale, ce qui sollicite son partenariat. Donc cela ne nous surprend guère.
L'URSS a aussi aidé les pays africains dans le passé et avait des relations étroites avec le continent et en particulier votre pays. L'aide actuelle octroyée par la Russie peut-elle être considérée comme une continuité de ses relations amicales avec l'Union soviétique, à votre avis?
Exactement. Comme je l'ai dit plus haut, la sincérité et la constance de la Fédération de la Russie dans ses relations avec les pays africains sont une évidence. Et cela s'est toujours fait dans un cadre de respect et de considération mutuelle.
Sur fond de cette relance des relations entre la Russie et les pays africains, on a quand même l'impression que l'Occident n'apprécie pas l'intensification de ces relations. Quelle pourrait être votre explication du phénomène? Pourquoi l'Occident ne se montre pas heureux de cette intensification?
Je crois que certains pays ont peut-être du mal à voir les pays africains s'émanciper. De par notre expérience en République centrafricaine, nous pensons que la Fédération de Russie a toujours concouru à notre émancipation. Donc, ce qui compte pour nous, c'est l'intérêt du peuple. Nous mettons nos relations en faveur de la coopération dans l'intérêt de notre population.
La Russie dit toujours qu'elle est tout à fait prête et disposée à livrer sa production au marché extérieur. Et la Russie est l'un des plus grands producteurs de céréales et d'engrais. Cependant, les sanctions occidentales imposées contre Moscou ont perturbé les chaînes d'approvisionnement et aussi les règlements financiers, ce qui a compliqué beaucoup la situation sur les marchés internationaux et aussi a fait accroître les prix. Comment, à votre avis, l'Afrique perçoit-elle ces actions de l'Occident? Est-ce que on peut dire que c'est une sorte d'hostilité de la part des pays occidentaux?
Nous pensons que nous sommes en train de passer d'un monde unipolaire à un monde multipolaire. Donc cette période est sujette à ce genre de défiance au regard de la perte d'influence de certains pays au niveau des pays africains.
Et à votre avis, quels sont les avantages de, soi-disant, l'approche russe par rapport à celle des pays occidentaux concernant le dossier céréalier, concernant les livraisons de l'alimentation et de produits alimentaires?
À notre avis, c'est l'absence de conditionnalité, de soumission de certains pays. Nous n'avons pris aucun engagement de soumission face à ce don russe. Et c'est cela que nous apprécions. Hein. C'est cela, parce que dans le domaine humanitaire, on ne doit pas mélanger le domaine humanitaire et puis les considérations politiques qui peuvent empêcher ces genres d'actions salvatrices ou qui contribuent à l'amélioration des conditions de vie de la population.
Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Et toute petite question qui concerne plutôt les médias, mais je me permets quand même de vous la poser. Nous, maintenant, on se parle en français et normalement, toute personne qui est francophone pourrait ensuite prendre connaissance avec notre entretien. Mais pourtant, les ressources des médias russes, dont par exemple notre agence Sputnik, est complètement bloquée en Europe et en particulier en France, qui est bien sûr le principal pays francophone dans le monde. Comment voyez-vous cette situation? Est-ce que c'est juste, est-ce que c'est justifié de bloquer les médias pour empêcher les gens de s'échanger des informations dans le monde moderne?
Non, je pense que c'est pas du tout juste que maintenant les chantages ou les systèmes de blocage, on peut les interpréter comme étant des moyens injustifiés et illégaux pour permettre de bloquer les avoirs des uns et des autres, de faire des chantages de ce type. Je pense que ça ne fait pas grandir ou permet à ces pays de revendiquer, parce que la démocratie, c'est la liberté de la presse. Quand on parle de pays démocratiques, la base de la démocratie, c'est la libre circulation des êtres, et puis la libre circulation, l'accès à des informations, même si ça dérange. Donc, ces moyens qui permettent de priver les organes de presse des ressources sont inacceptables.
Merci beaucoup. Et dans cette logique, permettez-moi aussi de demander votre opinion sur un des derniers événements africains et internationaux. Peut-être vous avez entendu parler que l'ONU a finalement reconnu les autorités du Niger, les nouvelles autorités du Niger, comme représentants légaux de ce pays. Et voilà, on vient juste d'avoir une déclaration du président béninois qui aussi dit qu'il va continuer à coopérer avec le Niger, maintenant avec les nouvelles autorités. Est-ce qu'à votre avis, ça montre que, voilà, dans le monde, comme vous le dites, qui devient de plus en plus multipolaire, est-ce que ça montre que certains pays, simplement, sont obligés d'accepter cette nouvelle réalité, d'accepter ces nouveaux choix qui sont faits par les populations africaines?
Voyez-vous, ce que nous pouvons dire, c'est quoi? C'est la souveraineté appartient au peuple. Et quand il y a eu ce changement au niveau du Niger, nous avons vu le soutien que la population a porté aux nouvelles autorités. Ça ne pouvait qu'être une évidence, hein, que c'est le peuple du Niger qui a soutenu. Donc c'est ça, c'est ce mouvement d'autodétermination des peuples africains qui sont à la reconquête de cette souveraineté, une véritable souveraineté, de prendre en main leur destinée.
Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Et finalement, juste toute dernière question concernant cette livraison du blé russe. Quand est-ce que vous expectez l'arrivée de cette livraison sur le sol centrafricain?
Bon, disons que dans le cas de la République centrafricaine qui, au demeurant, est un pays enclavé. Donc, nous utilisons les installations portuaires du Cameroun pour recevoir d'abord le blé. Et deuxièmement, nous avons, la République centrafricaine ne dispose pas de moulins pour la transformation du blé. Donc, nous sommes en train d'engager la procédure auprès de l'administration douanière camerounaise pour nous autoriser à transformer ce blé au niveau du Cameroun avant que le blé ne puisse prendre la route pour arriver en République centrafricaine.
Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Espérons que très bientôt, votre pays disposera des sites pour manufacturer ce blé. Et alors, voilà, il y aura plus de projets pareils entre nos pays.
Je le crois, compte tenu de la sincérité et puis les problèmes, enfin, du respect des engagements que la Fédération de Russie le prend en faveur de certains pays africains, nous espérons que nous pourrons bénéficier, dans le cadre de cette coopération agissante, la possibilité d'installer une unité de transformation du blé au niveau de la République centrafricaine. Ce sera une très grande, ce sera une bonne chose pour notre pays.
C'était Eric Rokoskamo, ministre de l'Agriculture et du Développement Rural de la République centrafricaine pour Sputnik Afrique. Il a commenté l'arrivée du navire transportant du blé russe, livré à titre gratuit à la RCA. Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, je vous rappelle que vous écoutez Sputnik Afrique sur les ondes de Maliba FM à Bamako. Bienvenue si vous venez tout juste de régler votre poste de radio sur le 99.5 FM. Sergueï Lavrov a effectué une tournée en Afrique du Nord récemment. Tout d'abord au Maroc, où il a participé à la 6e édition du Forum de coopération russo-arabe de Marrakech. En marge de ce forum, il a notamment été question du conflit israélo-palestinien. Monsieur Lavrov a évoqué ce problème avec son homologue égyptien Sameh Shoukry et a affirmé que Moscou partageait la position des pays arabes sur ce conflit. Commentant la tenue du forum, le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, a déclaré que celui-ci s'inscrivait dans le cadre du renforcement des relations entre les pays arabes et la Russie à un niveau stratégique. Le chef de la diplomatie russe est ensuite rendu en Tunisie afin d'y rencontrer son homologue tunisien, Nabil Amar. Durant cette visite de deux jours, Moscou et Tunis sont convenus de renforcer davantage leurs liens dans le domaine des céréales, de l'agriculture, de l'énergie, de la santé, de l'éducation, des nouvelles technologies, des échanges commerciaux, ainsi que dans le domaine spatial. En marge de la visite de travail de Sergueï Lavrov à Tunis, Nabil Amar, ministre tunisien des Affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens à l'étranger, a accordé un entretien exclusif à Sputnik. Je vous propose de l'écouter tout de suite. Monsieur le ministre, comment évaluez-vous le développement des relations entre la République tunisienne et la Fédération de Russie ? Et qu'est-ce qui pourrait être fait pour les renforcer davantage ?
Il faut savoir que la Tunisie a toujours eu d'excellentes relations avec la Russie à toutes les époques de l'histoire moderne. Nous avions des relations étroites et excellente avec l'URSS, il y avait une coopération dans de nombreux domaines, dans l'économie, dans l'enseignement supérieur, dans le domaine de la culture. Tout cela est important. Nous voulons revenir à ce niveau de coopération, surtout après ces années de pandémie, qui n'ont pas contribué au développement des relations. Aujourd'hui, notre monde a évolué, il y a de grands changements, nous devons les suivre, et la Tunisie doit développer l'amitié et les relations avec ses partenaires. La Russie, quant à elle, est l'un de nos partenaires importants.
On sait que la Tunisie a traversé de grandes épreuves ces dernières années. Le printemps arabe a commencé dans votre pays. Il a été suivi d'une succession de nombreux gouvernements et d'autres crises politiques. Comment la Tunisie vit-elle aujourd'hui ? Et les nombreux problèmes ont-ils été résolus ?
C'est l'expérience de la Tunisie. Tout cela était le résultat de raisons internes, tunisiennes, et a duré plus de 10 ans. Le peuple tunisien en a tiré toutes les leçons et a décidé que cette voie devait être corrigée, ce qui a été fait le 25 juillet 2021 par le président Kais Saied. Il s'agit d'un président élu au suffrage universel direct par plus de 72% des électeurs. Le peuple tunisien a demandé qu'il soit mis fin à la détérioration de la situation dans le pays depuis 2011. Cette expérience, comme le montrent les chiffres de l'économie, a manifestement été un échec. Les échecs dus à la mauvaise gouvernance du pays, à l'ingérence étrangère dans les affaires du pays, ont commencé à conduire à la déliquescence de l'État. C'était inacceptable. Les Tunisiens s'y sont opposés et il fallait que le chef de l'État prenne cette grande responsabilité pour sauver le pays. Nous sommes aujourd'hui sur cette voie, mais nous payons les factures de ces 10 dernières années. Nous sommes maintenant sur notre propre voie, celle de la Tunisie, sans aucune ingérence étrangère. C'est très important. Mais il y a des difficultés économiques, financières, parce qu'il y a eu une longue période de mauvaise gestion du pays et nous payons pour cette période. Il y a aussi des problèmes internationaux qui ne facilitent pas les choses, les rendent plus difficiles. Mais les Tunisiens sont résistants, unis autour de leurs dirigeants. Ils savent que les temps sont difficiles, mais malgré cela, ils sont prêts à se sacrifier pour reconstruire le pays.
Les négociations entre la Tunisie et le Fonds monétaire international pour un prêt se poursuivent-elles ?
Nous ne les avons pas interrompues, mais nous avons dit clairement qu'il y a des lignes rouges à ne pas franchir. Le Fonds monétaire international, impose toujours des conditions, mais nous pensons que ces conditions ne sont pas acceptables pour la situation en Tunisie. Nous avons la conviction qu'elles ne peuvent pas être remplies, qu'elles ne seront pas bénéfiques. Nous pensons que les hommes d'État en Tunisie savent mieux que les experts du Fonds monétaire ce que nous devons faire et ce que nous ne devons pas faire. Nous menons des réformes internes, nous ne sommes pas contre, mais avec notre vision tunisienne, en fonction de la situation dans laquelle se trouve la Tunisie, et non en fonction de la vision des experts du FMI. Comme vous le savez, le FMI a un agenda politique, pas seulement un agenda économique. La Tunisie continue à payer ses dettes par ses propres moyens. Malgré toutes les difficultés, malgré toutes les pressions, malgré le manque de soutien à la Tunisie de la part d'un certain nombre de partenaires, nous honorons nos engagements, nous payons nos dettes.
Des informations ont été diffusées précédemment selon lesquelles la Tunisie négociait son adhésion au sein des BRICS. De telles négociations ont-elles vraiment eu lieu ?
Il n'y a pas eu de demande officielle de la part de la Tunisie pour rejoindre les BRICS. Comme vous le savez, les BRICS ont certaines conditions politiques, économiques, il y a de nombreuses dimensions. La Tunisie n'a pas fait de demande. Mais nous avons d'excellentes relations avec tous les pays qui font partie des BRICS et cette option peut se concrétiser. Néanmoins, jusqu'à présent, il n'y a pas eu de demande officielle de la part de la Tunisie pour rejoindre les BRICS.
Depuis plusieurs mois, la situation en Palestine, dans la bande de Gaza, est l'un des principaux sujets de l'actualité mondiale. La Tunisie a organisé à plusieurs reprises des manifestations de masse réunissant des milliers de personnes en solidarité avec le peuple palestinien. On sait également que la Tunisie a toujours eu une position active sur la question palestinienne et qu'elle a accueilli dans les années 1980 le siège de l'Organisation de Libération de la Palestine. La Tunisie propose-t-elle aujourd'hui une nouvelle initiative pour résoudre le conflit dans la bande de Gaza ?
Nous avons plus qu'une initiative. Vous avez parlé ici de la solidarité des Tunisiens avec le peuple palestinien. Oui, mais c'est aussi une solidarité avec la vérité. Ces gens sont opprimés, ils sont tués maintenant, les femmes sont tuées, les enfants sont tués. C'est incompréhensible. La Tunisie s'y oppose de toutes ses forces. Nous sommes aux côtés du peuple palestinien. Les Palestiniens ont été chassés de leurs terres, ils ont été tués, ils sont devenus des sans-abri. Ces meurtres sont injustifiés, injustifiés. Et ce qui nous rend très tristes, c'est que les grandes puissances soutiennent cette agression. C'est très étrange, c'est du colonialisme. Un certain nombre d'autres pays ont été construits grâce au colonialisme et au massacre de la population. Et ils pensent que cela peut être fait en Palestine. Si c'était possible il y a 250 ans, dans de vastes régions peu peuplées, c'est impossible sur les terres palestiniennes aujourd'hui. Il existe encore une mentalité selon laquelle on peut construire un pays en tuant sa population autochtone, ce qui n'est pas acceptable.
Et quelle est selon vous la solution à ce problème ?
Les droits du peuple palestinien. Il n'y a pas d'autre solution. Donner à ce peuple ses droits. Ils ne peuvent pas tuer 2 millions de personnes. Personne ne l'acceptera. Alors donnez-leur leurs droits. Avez créé une situation telle qu'il est presque impossible de créer un deuxième État. C'est vous qui avez créé ce problème, à vous de le résoudre. Les Palestiniens veulent la paix et vivre dans leur propre pays, mais l'autre partie ne l'accepte pas, veut prendre toutes les terres et n'accepte pas l'existence de l'autre partie.
C'était Nabil Amar, ministre tunisien des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger pour Spoutnik Afrique. Pour analyser ses propos, ainsi que pour faire le bilan des visites au Maroc et en Tunisie de Sergueï Lavrov, je vous présente le docteur Abdeljelil Dahari, juriste international et directeur du think tank international Dignité et Espoir. Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a effectué une tournée dans les pays d'Afrique du Nord. Après une réunion du Forum de coopération russo-arabe au Maroc, il s'est rendu en Tunisie où il s'est entretenu avec les autorités du pays. Comment interpréter cette visite dans le contexte géopolitique actuel ? Et pourquoi intervient-elle à ce moment ?
Je pense que l'actuelle visite reflète l'importance qui est donnée à la Russie, à la dynamique, à la création de cette dynamique au niveau des relations diplomatiques dans le pôle sud et de reprendre le terrain par la diplomatie russe sur le compte des autres diplomaties qu'ils ont réalisées, que de l'échec, de la défaite, comme la diplomatie française, la diplomatie européenne et surtout la diplomatie américaine. La Russie a intercepté la nécessité de l'Afrique de créer des autres logiques de relations diplomatiques et pour cela, la Russie il est en train d'investir dans la création de ce type de relations basées sur la justice, sur le traitement égalitaire et sur le respect aussi de la souveraineté interne pour éviter les fautes qui ont été commises par les Européens, surtout les Français, et par les Américains, où les relations avec l'Afrique ont été caractérisées par l'inégalité, l'ingérence dans les affaires internes et le mépris. Le moment, le choix de moment, c'est très important parce que le monde passe par des crises au niveau de l'économie, des crises existentielles aussi au niveau de la sécurité. Si vous voyez la situation au Moyen-Orient, la situation dans l'Europe de l'Est, les migrations, les mouvements de la libération interne et nationale en Afrique, c'est le moment d'établir des relations, d'établir une autre dynamique des relations diplomatiques internationales pour arriver à l'établissement d'un nouvel ordre mondial qui peut remplacer l'ordre mondial qui a dirigé l'humanité pendant des décennies et qui a été conçu et dirigé par les États-Unis qui a failli assurer la sécurité humaine et la dignité humaine.
L'un des principaux sujets abordés au cours du voyage de M. Lavrov a été le conflit israélo-palestinien. La position de la Russie coïncide avec la ligne des États arabes. Comment une action commune entre la Russie et le monde arabe peut-elle contribuer à la résolution de ce conflit ?
Si vous voyez, et vous comprenez ce conflit qui maintenant confronte Israël et derrière Israël, les États-Unis, et avec les États-Unis, les pays occidentaux européens comme la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne et Israël d'un côté, et le peuple palestinien avec les peuples arabes, parce qu'il y a des gouvernements arabes qui ont choisi la normalisation, qui ont choisi la passivité, qui ont choisi de voir d'une façon passive les massacres palestiniens. Mais les peuples, ils ont exprimé leur position de soutien, de détermination avec la cause palestinienne. La Russie, c'est la seule force. La Russie, la Chine, elle est loin. Elle est loin de la scène géographiquement, politiquement, etc. La Russie est la seule force internationale capable de faire la médiation. Et la seule force au niveau international qui sera capable d'assurer la négociation et de garantir le dialogue entre les différentes parties. Ici, vous voyez, la Russie a des bonnes relations avec les gouvernements arabes, a des bonnes relations avec les Palestiniens et les composants de la société palestinienne comme Hamas, Jihad, etc. La Russie a des bonnes relations avec l'Iran, avec Hezbollah et en même temps a des relations avec Israël, malgré que Israël il est endoctriné derrière les États-Unis. Mais si vous voyez aussi l'historique de relations entre la Russie et Israël, c'est très important. En prenant la composition d'abord de la population russe, un cinquième de la population russe et juive, malgré que la position négative d'Israël concernant la guerre d'Ukraine, Zelensky a essayé d'instrumentaliser son appartenance religieuse en tant que juif, etc. Israël a soutenu l'Ukraine discrètement ou solennellement, mais la Russie est la seule force capable de gérer, d'assurer le dialogue entre les différents partis dans cette situation.
Sergueï Lavrov a souligné que les crises actuelles en Ukraine et au Moyen-Orient ont marqué un point de rupture entre les pays de l'Occident et le reste du monde. Selon lui, le monde se trouve à un tournant crucial et la question de savoir si un ordre mondial véritablement juste et démocratique peut être formé ou si les États-Unis et un groupe d'anciennes métropoles coloniales continueront d'imposer leur agenda. Êtes-vous d'accord avec cette vision ?
Je suis tout à fait d'accord. L'humanité devant le défi de créer, de fonder un autre ordre mondial. L'ordre mondial qui a dirigé l'humanité pendant des décennies, cet ordre conçu et dirigé par les États-Unis a failli. Il n'a créé que de malheurs pour l'humanité. Il n'a créé que des guerres, des déstabilisations internes, des défaillances économiques et sociales. Et les États-Unis, il est seul responsable. Et l'histoire va conserver, la mémoire humaine va conserver la défaillance des États-Unis, la responsabilité scandaleuse des États-Unis qui a provoqué de mal et de malheur et de peine pour l'humanité. Aujourd'hui, l'humanité devant ce défi de créer un ordre mondial plus équitable, plus respectueux pour l'humanité, basé sur l'égalité entre les nations. Pour finir avec l'ordre mondial de l'esclavagisme, de l'intervention dans les affaires internes des États. Et je dis bien les États-Unis et l'Europe qui a été instrumentalisée par les États-Unis, comme la France qui est devenue un service parmi les services des États-Unis, est responsable de cette situation.
Dans une interview accordée à Spoutnik, le ministre tunisien des Affaires étrangères n'a pas exclu la possibilité que son pays rejoigne les BRICS. Quelles opportunités les BRICS pourraient-ils ouvrir devant Tunis alors qu'il vient de connaître un élargissement ?
La Tunisie parmi plusieurs pays africains qui souffrent de la domination occidentale au niveau financier et économique. L'économie tunisienne, la finance publique tunisienne est trop chargée par les dettes vers le Banque mondiale, vers le Fonds monétaire international. Malheureusement aussi, la classe politique tunisienne est responsable d'une situation de l'utilisation massive des dettes et des fonds procurés dans des besoins, dans la consommation salariale, dans des besoins tactiques et non stratégiques, ce qui a malheureusement chargé négativement les finances publiques tunisiennes et causé déséquilibre au niveau de la balance commerciale, des balances financières pour des années, ICA, qui va charger aussi des générations de futurs qui seront obligées de payer la dette tunisienne. Appartenir aux BRICS comme une autre alternative de financement et d'économie et d'échange mondial, c'est très important pour eux. La Tunisie sera une source de respiration financière et budgétaire et économique et de s'éloigner de cette domination, de ce contrôle, de ce tutelle abusif du Fonds mondial international. Le BRICS sera un relais de secours pour l'économie tunisienne, un relais de revitalisation, d'investissement, de réanimation pour l'économie et le financement tunisien.
Le ministre tunisien a dit aussi que les négociations entre la Tunisie et le Fonds monétaire international pour un prêt sont en cours, mais il a noté que les conditions du FMI sont inacceptables pour le pays. Comment évaluez-vous les activités des organisations financières internationales et le fait qu'elles poursuivent souvent un agenda politique ?
Le Fonds monétaire international, Banque mondiale internationale, ce sont les instruments de l'ordre mondial américain qui a dirigé le monde pendant 10 années. C'est normal que ces instruments essaient de diriger les pays, les peuples, le destin de ces peuples avec mépris, avec égoïsme, avec sauvagerie, un peu sans prendre en considération les priorités sociales et économiques. Et vous voyez l'échec de ces instruments dans plusieurs pays, en Chili, en Grèce, où il y a l'augmentation chaque année, chaque mois de la dette publique, la destruction progressive de l'économie nationale en Afrique, en Congo, au Rwanda et tout. Alors, les négociations avec ces instruments basés sur le côté agressif, sur la contrainte, le non-respect, et c'est normal parce que c'est la mentalité de ces institutions sauvages qui ne prennent jamais en considération les conditions des pays. Ces institutions sont en train d'obliger la Tunisie à enlever les subventions des produits premiers, ce qui va, par exemple, créer des émeutes, une autre révolution, mais ce sera une révolution des anarchistes, parce que ce sera une révolution de la famine, de l'absence de la dignité humaine.
Et à votre avis, le système financier mondial a-t-il besoin de réformes ?
Le système financier international a besoin d'une révolte, d'une réformation de base. C'est un système d'abord dirigé sur une valeur monétaire unitaire, c'est le dollar d'abord qui a servi et en train de servir les intérêts d'une seule nation, c'est les États-Unis, sur le compte des autres nations du monde. Les États-Unis ont imposé le dollar comme valeur monétaire internationale, comme une valeur d'indication monétaire, ce qui n'est pas normal d'abord au niveau de la monnaie, c'est pas normal, ou au niveau aussi de la logique de travail des institutions financières internationales. Comme j'ai bien précisé, et c'est une logique basée sur la contrainte, l'absence de négociation, la suprématie et l'absence de considération des besoins sociaux et économiques des nations.
C'était le docteur Abdeljelil Dahari, juriste international et directeur du think tank international Dignité et Espoir pour Spoutnik Afrique. Il a fait le bilan des visites au Maroc et en Tunisie du chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov. Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, vous écoutez Spoutnik Africa Bamako sur le 99.5 FM. Ici l'émission Zone de Contact présentée par Anthony Lefebvre. Je salue celles et ceux qui viennent de nous rejoindre. L'année 2023 arrive à son terme prochainement. Cette période est traditionnellement le moment propice pour faire le bilan des réalisations de l'année écoulée. Nos regards se tourneront bien entendu en Ukraine où l'opération spéciale russe se poursuit. Sur la ligne de front, on retiendra l'échec de la contre-offensive ukrainienne malgré l'envoi massif d'armes occidentales à Kiev. Dans le Sahel, une nouvelle alliance militaire s'est formée entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Intitulée « Alliance des États du Sahel », celle-ci peut déjà se targuer de victoires militaires majeures, notamment à Kidal au Mali, scellant au passage le sort du G5 Sahel, pour qui son existence est désormais comptée. Sur le continent africain, on a également assisté à la fin de la MINUSMA, placée sous l'égide de l'ONU, et au départ des soldats français du Niger, suite à la destitution du président Mohamed Bazoum par les militaires. Au micro de Spoutnik Afrique, Akram Karieff, expert en sécurité et défense, fondateur et animateur du site d'information militaire algérien MENA Défense, ainsi que Foussénou Ouattara, vice-président de la Commission de la Défense et de la Sécurité du Conseil National de Transition Malien, ont fait le bilan de l'année militaire 2023. Monsieur Karieff, lors d'une réunion au ministère de la Défense, Vladimir Poutine a déclaré que le mythe de l'invulnérabilité des armes occidentales s'est effondré avec le conflit en Ukraine. Comment se fait-il alors qu'avec toutes les armes occidentales livrées à Kiev, sa contre-offensive ait échoué ?
En fait, il s'agit de plusieurs choses, c'est un cumul de choses. Premièrement, les armes occidentales ont été faites pour une utilisation intensive, mais sur une très courte durée. Donc il y a un problème apparent de robustesse et de fiabilité. Ce sont des armements qui nécessitent énormément de maintenance, d'entretien, qui ne sont pas faits pour une utilisation très très prolongée et très intense comme cela a été le cas pendant l'opération spéciale. Donc il y a cela. Il y a aussi le fait que la Russie et le complexe militaro-industriel russe aient eu suffisamment de capacité d'adaptation du point de vue engineering pour moderniser sur le pouce des armements russes et les adapter à la réalité de ce qu'ils avaient face à eux. Néanmoins, certaines armes occidentales ont quand même prouvé une certaine efficacité, mais majoritairement on a vu que la robustesse et la masse de l'armement russe a fait le poids face aux armements occidentaux.
Et vous, M. Ouattara, quelles sont selon vous les raisons de l'échec de la contre-offensive ukrainienne ?
Bon, je pense que cela peut se comprendre aisément, parce que quand les gens finissent par croire à leur propre propagande et font fi de la réalité et qui se croient invincibles. Si vous venez sur le terrain, on voit tout de suite la différence entre la théorie et la pratique. Je pense qu'ici, c'est le pragmatisme de la Russie qui a gagné, et surtout le patriotisme aussi des Russes, et le génie créateur surtout des Russes. Parce qu'ils ont prouvé qu'avec peu de moyens, on peut faire beaucoup mieux que les gens qui ont beaucoup plus d'argent. Donc ici, c'est le génie créateur qui a déterminé sur le terrain.
Monsieur Ouattara, dans ce contexte, comment évaluez-vous l'efficacité des armes russes que Poutine s'est engagé à perfectionner encore davantage?
Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est convaincu que depuis longtemps, il me semble qu'il y a plus de 20 ans déjà, je me souviens bien que Poutine, lors d'une de ses interventions, avait déjà dit que la réponse de la Russie sera moins chère et beaucoup plus efficace que ce que les Américains préparé comme arme de guerre avec la guerre des étoiles, tout. Et on voit maintenant que c'est ce qui est en train de se réaliser, parce que même si vous prenez le Mali, depuis 10 ans, on a eu toutes sortes d'armées de tous les pays sur notre sol, avec toutes sortes d'armes. Mais il a fallu qu'on se donne la main avec la Russie et que la donne chance sur le terrain. Et l'efficacité des armes russes sur le sol malien s'est avéré beaucoup plus efficace. Et nous, en tout cas, de notre côté, nous en sommes très contents aujourd'hui.
Et vous, M. Kariev, quelle évaluation pouvez-vous nous faire des armes russes?
On le voit, chaque jour qui arrive démontre que ces armements-là sont efficaces, sont robustes, sont faits pour le terrain, sont faits pour être utilisés dans toutes les conditions. On a vu que l'efficacité des armements russes n'a pas varié selon les conditions météorologiques, par exemple. On voit qu'en face, lorsqu'il s'agit d'équipements roulants, par exemple, les équipements occidentaux ne fonctionnent pratiquement pas l'hiver. Or, les équipements russes ne subissent pas trop de variations de température ou de conditions météorologiques. Donc, l'efficacité des armements russes, même si Parfois, il y a des limitations en termes de précision, en termes de portée. Mais le fait qu'il y ait à la fois la masse, la robustesse, la disponibilité d'emploi fait que utilisés correctement, ce sont des armements qui se sont avérés très, très efficaces et qui, je pense, vont vers plus d'efficacité grâce au retour d'expérience qu'il y a eu au combat.
Monsieur Ouattara, est-ce qu'à votre avis, cela pourrait-il déboucher sur de nouveaux contrats d'armement entre la Russie et d'autres pays, notamment les pays africains?
Je suis sûr qu'il doit avoir déjà une liste très longue pour les commandes. Et c'est l'industrie militaire russe qui va déterminer le devenir de beaucoup de pays dans le futur. Et même si cela va rendre jaloux, parce que nous savons que beaucoup de choses se font, c'est une concurrence rude entre les pays occidentaux et la Russie aujourd'hui. Le problème est que la Russie, quand même, a une position beaucoup plus confortable parce que la Russie regorge des ressources du sous-sol et même des ressources de la nature qui peuvent suffire à la Russie. Alors que beaucoup de pays occidentaux misent plutôt sur leur puissance militaire pour remplir leur caisse afin d'avoir quand même un budget pour subvenir à leurs besoins. Aujourd'hui, nous savons que des pays comme la France souffrent, qu'ils sont en train de perdre des places dans le monde pour la vente des armes. Parce que la vente des armes, c'est l'une des sources qui renfloue leur budget. Donc, on comprend aisément qu'ils vont tout faire pour essayer de barrer la route à la Russie. Et dans les mensonges, parce qu'on voit beaucoup de manipulations et de désinformations sur les médias. Mais ce qui est sûr, le résultat est là, les armes russes sont beaucoup plus efficaces.
Monsieur Kariev, pensez-vous que de nouveaux contrats d'armement entre la Russie et des pays africains pourraient être signés à l'avenir?
C'est tout à fait probable. D'abord, ça va déboucher sur une modernisation de tous les armements vendus auparavant par la Russie aux pays africains. De nouvelles données sont là, de nouveaux réglages sont là, donc cela veut dire que potentiellement tous les armements achetés ces 10 dernières années par les pays africains ou autres vont devoir subir des modifications et de la modernisation en fait pour les mettre au standard de l'après guerre en Ukraine. Donc de nouveaux armements sont apparus, par exemple les drones kamikazes, par exemple les bombes guidées qui n'existaient pas en Russie, qui sont en fait une quasiment une invention faite durant la guerre. Tous ces armements-là ont prouvé leur efficacité et séduisent de plus en plus les armées sérieuses qui se préparent à des éventualités de guerre. Donc oui, moi je m'attends à ce que, vu la démonstration de précision, par exemple des missiles, de l'artillerie, des drones et aussi des bombes guidées, que ce soit des équipements qui seront à l'avenir vendus en Afrique et un peu ailleurs.
Monsieur Ouattara, si vous le voulez bien, on va se pencher maintenant sur l'actualité de votre région, le Sahel. La lutte contre le terrorisme a connu des succès importants vers la fin de l'année. Les forces armées maliennes ont notamment repris le contrôle de la ville de Kidal. Au Burkina Faso, l'armée a aussi intensifié ses opérations. Qu'est-ce qui a conditionné ces succès, à votre avis ?
Ces succès ont été possibles dès le jour où le président Poutine a décidé quand même d'écouter le président du Mali, Assimi Goïta, et de se pencher sur les problèmes qu'on avait soumis à l'analyse du président de la Russie. Il me semble que dès ce jour, la Russie nous a ouvert grandement les bras et on a pu avoir les armes qui nous manquaient. Et ce sont ces armes-là même qui, aujourd'hui, sont en train de travailler au Burkina Faso et au Niger. Et même maintenant, c'est devenu comme, c'est pas un show sur les médias, parce que chaque soir, on peut voir comment ces armes travaillent à travers les diffusions de la télé du Burkina, comment ça travaille sur le terrain. Et nous ne finirons jamais de remercier la Russie pour cela, parce qu'aujourd'hui, si le Mali a pu vaincre le terrorisme à moitié, parce qu'il faut savoir qu'il y a encore beaucoup à faire. Mais si nous parvenons aujourd'hui à avoir le contrôle total de tout notre territoire, c'est surtout grâce à ces armes-là. Et je suis sûr que dans quelques instants, on pourra vraiment circonscrire les petites poches de terrorisme qui restent encore. Et nous disons encore merci à la Russie pour ça.
Monsieur Ouattara, pourquoi la prise de Kidal a-t-elle été importante pour l'armée malienne ?
Bon, vous savez, depuis les indépendances, Kidal fut un enjeu majeur dans la politique française pour maintenir les anciennes colonies entre ses mains. Et à travers Kidal, toujours, la France a toujours poussé et instrumentalisé quelques familles qui sont là-bas. C'est une famille qui représente une minorité au sein même d'une minorité. Parce qu'il faut savoir qu'au Mali, les Touaregs représentent une minorité. Mais là, si vous prenez 90% de ces Touaregs, ce sont des gens qui se reconnaissent comme Maliens, qui combattent pour le Mali. Mais malheureusement, il y a 10%, surtout à Kidal, une seule famille, la famille Intala, que la France a instrumentalisée pour toujours faire de cette enclave un nid de rébellion. Et c'était pour mettre toujours la pression sur les différents gouvernements du Mali, essayer de contrôler, disons, d'avoir la mainmise sur les ressources naturelles. Et pour cela, à un moment donné, ce sont les troupes françaises qui se sont substituées aux Touaregs, se faisant passer pour des rebelles, qui ont pu vaincre l'armée malienne à Kidal, qui ont pu bombarder nos soldats, les tuer. Et en ce moment, ils ont... Après ça, avec le concours de l'AMINUSMA, ils avaient barré la route aux soldats maliens pour que ceux-ci n'entrent pas à Kidal. Donc, comme vous pouvez le voir, depuis plus de 10 ans, tous les Maliens souffraient dans leur chair et Kidal échappait au contrôle de l'autorité malienne. Aujourd'hui, si nous avons repris Kidal, c'est une victoire, surtout pour nous, une victoire qui a mis fin à la servitude, à l'esclavage des habitants qui se trouvaient là-bas. Parce que les habitants de Kidal étaient en servitude qui dépendaient d'une seule famille, qui est la famille Intala, qui avait droit de vie et de mort sur les habitants de Kidal. Aujourd'hui, nous sommes très contents que nous avons pu libérer nos frères du Kidal et que leurs enfants puissent aller à l'école, que les gens puissent se soigner dans les hôpitaux, que les gens puissent avoir accès à l'administration. Et comme vous avez vu, avant-hier seulement, nos soldats ont continué leur progression pour prendre possession du camp de Aguelouac, qui est à quelques dizaines de kilomètres de voilà.
Monsieur Ouattara, après le succès de l'opération Kidal, l'armée malienne a repris la ville stratégique d'Aguelouac ce mercredi 20 décembre 2023. Il faut noter que la MINUSMA avait une base dans cette ville encore récemment. Et pourquoi les terroristes ont-ils commencé à subir une défaite après l'autre, depuis le départ des soldats étrangers?
Oh, ça c'est une très bonne question. Parce que nous, dans nos analyses, surtout le mouvement que je représente Corema avec mon premier vice-président, Honorable Bokassi Kifomba, on a fourni assez de documents, assez de documentation pour montrer que le problème, au fait, c'était la présence de Barkhane, de Takuba, ainsi de suite. Parce que c'était les mercenaires français. Comme vous savez, la Légion française est constituée de mercenaires. C'était ceci qui se transformait souvent en Touareg, souvent en Peul, et qui agressait la population et nos soldats. Nous, nous savions que si c'était seulement les terroristes, des gens qui, hier, seulement avant-hier, étaient des pêcheurs, des cultivateurs, des gens qui n'avaient pas la maîtrise des armes, ne pouvaient pas vaincre nos soldats. Donc, si vous voyez que durant tout ce temps, on n'avait pas pu prendre possession de ces entités, parce que c'était l'armée française, avec l'appui aussi de l'armée du Tchad, qui bombardait nos positions, qui nous empêchait d'avoir accès à ces entités. Depuis qu'on a pu nous débarrasser de la France, et que Barkhane fut rentré, Takuba fut rentré, et qu'on a dit à MINUSMA aussi de plier bagage, vous avez vu que sur le terrain déjà, la vérité est apparue. Nos soldats ont pu prendre position de toutes les emprises que nous avions perdues avant.
Et vous, M. Karieff, quelle est votre opinion sur cette question?
Effectivement, faire la relation entre la présence de forces étrangères, MINUSMA, et la facilité avec laquelle se déplacent aujourd'hui les FAMA au nord est pertinente. Elle est très très pertinente. C'est vrai que la MINUSMA en fait était aussi une force quasiment d'occupation qui a fait que c'était très difficile pour Bamako de s'implanter un peu partout. Et ça a un peu compliqué les choses pour l'armée malienne. Mais bon, aujourd'hui, on voit que il y a une évolution. Mais de toutes les manières, il y a aussi une évolution politique au Mali qui, je pense, va accompagner cette démarche de l'armée malienne et du gouvernement central. Une évolution politique qui, si elle est fondée sur la négociation, je pense qu'il donnera une sorte de retour à la normale et retour à la paix dans le pays.
Monsieur Karieff, sur le plan géopolitique, cette année 2023 a été aussi marquée par la fin de la mission de la MINUSMA et du retrait français du Burkina Faso et du Niger. L'alliance des États du Sahel est née. Dans quelle mesure ces changements géopolitiques dans la région ont-ils changé la donne dans la lutte contre le terrorisme?
C'est vrai que nous sommes en train de vivre un événement important qui est pratiquement la disparition de la France, du moins militairement, de la zone Sahel. On voit aussi que cette disparition renforce certains gouvernements centraux au Mali, en Guinée, au Burkina Faso et au Niger maintenant. On voit que le départ de la France donne plus de latitude à ces gouvernements centraux-là de gérer à leur façon la crise avec les différents groupes armés, terroristes ou pas, parce que il y a des rébellions aussi un peu partout dans la région, et ça renforce une sorte de dynamique régionale entre ces gouvernements centraux là pour faire quelque chose. Et, chose qu'avait essayé de faire la France en établissant ce fameux G5 Sahel, qui en réalité était une sorte de coquille vide créée juste pour vraiment pomper du financement plus qu'autre chose. Et d'ailleurs, ce financement devait venir des pays du Golfe et est venu des pays du Golfe. Et il a profité essentiellement
aux marchands d'armes et aux fabricants d'armes et non pas à la lutte contre le terrorisme.
Et vous, M. Ouattara, que pensez-vous de l'émergence de l'Alliance des États du Sahel dans la lutte contre le terrorisme?
La création de l'Alliance des États du Sahel est une bénédiction pour nous parce que, comme vous savez, ces trois pays étaient utilisés par des forces hostiles qui faisaient que les terroristes pouvaient se déplacer librement entre les trois frontières. Il suffisait qu'ils commettent des forfaits au Mali, ils pouvaient se refuser en toute impunité, soit au Niger, soit au Burkina, et inversement aussi, ils pouvaient commettre des forfaitures au Burkina et se refuser au Mali. Si vous prenez la zone des trois frontières, c'est ce qu'on appelle le Liptako-Gourma, qui réunit le Mali, le Niger et le Burkina Faso. C'est une entité qui fait à peu près 270 000 km². Donc, cette entité avait été confiée à Barkhane, à Takuba et à la MINUSMA. Mais à notre grande surprise, à la présence même de ces trois forces, c'est là que le terrorisme a pris de l'ampleur. Donc, on pouvait aisément comprendre qui était à la base de tout ça. Dès que, comme j'ai dit, dès qu'on a pu se débarrasser et de Takuba et de Barkhane et de la France, on a pu conclure des accords entre nous avec la charte des États du Sahel. Maintenant, on a ouvert nos frontières les uns aux autres. Donc, si le Burkina commence à pourchasser des terroristes, ils peuvent le faire jusque sur le territoire malien ou bien donner les relais aux soldats maliens qui prennent les relais aussi pour finir le travail. Et c'est la même chose avec le Niger. Et c'est une alliance qui est très solide, qui aujourd'hui bénéficie aussi du soutien et de la Russie, de la Chine, de la Turquie, ainsi de suite. Donc, nous représentons aujourd'hui une force qui est en train d'éradiquer complètement le terrorisme au sein du Liptako-Gourma.
Monsieur Kariev, quelles sont les perspectives pour les armées africaines qui se battent pour l'intégrité de leur pays et la sécurité de leur peuple en 2024?
Les perspectives sont bonnes, à condition qu'il y ait pour ces armées africaines des préconditions comme le respect des équilibres régionaux, le respect des ethnicités, le respect des droits de l'homme de manière générale, etc. C'est aussi important ça sera aussi important en 2024 de voir à quel point les pays africains se soutiendront. Quand je dis pays africains, je pense à des pays comme l'Algérie avec les autres pays du Sahel et qu'il y ait un travail en coordination parce que coordonner des efforts pour ces armées-là entre ces différents pays est la véritable clé de la réussite pour la pacification et pour la sortie de crise. Ça est aussi un travail de concert pour le développement et pour un retour à la paix civile par la négociation, par la politique et de moins en moins par des armes. Mais je vous l'accorde, pour parvenir à un dialogue serein, il faut d'abord établir des conditions de dialogue par une reprise en main militaire de la situation.
Monsieur Ouattara, je vous laisse maintenant conclure sur les perspectives des armées africaines pour l'année prochaine.
Pour les perspectives, c'est que maintenant, chaque pays a pris conscience d'où venait le problème. Quand vous savez déjà d'où vient le problème, c'est facile de circonscrire. Et je suis sûr que chaque pays va tout faire d'abord pour mettre un budget important pour à la formation et au réarmement des forces de défense et de sécurité. C'est ce que nous manquait avant, parce qu'avant, on nous avait fait croire que si vous avez la démocratie, vous n'avez pas besoin d'une armée forte, ce qui s'est avéré fausse. Donc, je suis sûr que dès l'année prochaine, vous verrez dans beaucoup de pays africains, ce seront des armées qui seront maintenant bien nantis, qui auront des instructeurs aussi. Et nous remercions la Russie parce que, comme vous savez, nous bénéficions aussi des instructeurs qui sont venus de la Russie, qui nous aident beaucoup. Et je suis sûr que personne, dans aucun des pays, ne va négliger le côté militaire de son développement. Et j'ai cru que 2024 puisse faire tout pour que les forces de sécurité et de défense du Mali auront fini d'éradiquer le terrorisme sur toute l'étendue du territoire.
C'était Akram Karieff, expert en sécurité et en défense, fondateur et animateur du site d'information militaire algérien MENA Défense, ainsi que Foussénou Ouattara, vice-président de la Commission de la Défense et de la Sécurité du Conseil National de Transition du Mali, pour Spoutnik Afrique. Ils ont fait le bilan militaire de l'année 2023. Mesdames, Messieurs, Spoutnik Afrique rend maintenant l'antenne à Maliba FM. Moi, Anthony Lefebvre, je vous donne rendez-vous très vite pour un prochain numéro de mon émission. Je vous invite à consulter notre site internet et à vous abonner à notre page Telegram Spoutnik Afrique officielle pour suivre l'actualité africaine et internationale en temps réel. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.
Zone de contact, une émission de Spoutnik Afrique.